Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas située à Brive-la-Gaillarde, au 6 rue Gambetta, sur 97.8. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez actuellement le numéro 1282 d'Invino Sud Radio. Depuis la création de l'émission, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure l'excellente Valérie Pajotin, directrice de Anivin, qui nous parlera des cépages français, et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand du château d'Aulnac, très beau vignoble dans le Bordelais. À mes côtés pour nous accompagner, comme hier en fait, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain.
Ça va, la soirée s'est bien passée?
C'était top, un
samedi soir sympa.
Il vaut mieux que je ne vous raconte pas à l'antenne tout ce que j'ai fait hier soir, mais c'était dingue.
Vous, David Cobol, vous avez été sage hier soir? David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux.
Alain, vous avez évoqué Brive-la-Gaillarde tout à l'heure. Mais vous voulez que je vous fasse l'annonce SNCF pour les trains de nuit qui passaient par le Brive-la-Gaillarde?
De toute façon, même si je réponds non, vous allez le faire.
Vous avez raison. Mais quand je prenais souvent cette ligne à l'époque, avant le TGV, c'était la ligne de nuit pour Toulouse. Et au milieu de la nuit, on entendait Brive-la-Gaillarde, riant, partail du midi. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un rire à Brive-la-Gaillarde.
Alors, David, pour commencer, Invino Sud Radio, on accueille maintenant Cédric Lacquereux, propriétaire du domaine Les Capréoles. Nous sommes dans le Beaujolais. Bonjour Cédric.
Bonjour Alain.
Alors, racontez-nous, vous êtes ingénieur agro, œnologue également. Vous avez toujours bossé dans le vin ou pas?
Je suis natif de Vichy, donc c'était un peu plus limité, mais...
Il y a beaucoup d'eau dans le vin. Hein.
Ouais, et oui, 85% au moins. Et depuis que je suis passé à Montpellier, oui, je suis toujours resté dans la filière, plutôt sur la vigne, mais toujours sur le vin aussi.
Bon, donc ce domaine des Capréoles, vous l'avez rejoint en 2014, vous êtes où dans le Beaujolais?
Oui, c'est un domaine qu'on a créé avec mon épouse en 2014, on est sur Régnier, le cru Régnier.
Oh là là, Hélène, vous aimez les crus, enfin le Beaujolais en général, et les crus en particulier, Hélène?
Ah ben moi, je suis une fan de Gamay, je suis une fan des crus du Beaujolais.
Gamay plus Gamay. Hein.
Régnier, ça me va tout à fait bien. Alors effectivement, le vin n'avait pas beaucoup de secrets pour vous quand vous avez démarré, puisque voilà, vous avez été entre autres directeur du service viticole de la Chambre d'agriculture de l'Aude, directeur des vignobles Gérard Bertrand quand même. Voilà, un petit jeune qui montait à l'époque déjà. Donc voilà. Et puis le jour où vous vous êtes décidé, alors pourquoi le Beaujolais?
Je suis auvergnat d'origine. On avait une petite ferme en Auvergne, une vigne de Gamay. 20 arts, donc du Gamay dans le biberon, et à un moment on y retourne.
Et votre épouse, elle est d'où?
Elle est du sud de Beaujolais, du Bois-d'Oin, de la zone des Pierres Dorées.
Ouh là là, elle est très loin, elle. Hein,
très belle région. Ouais.
Une expatriée. Absolument. Par rapport à Régnier. Hein.
Et combien d'hectares vous avez au total?
Et aujourd'hui, 8 hectares.
Ça a démarré avec 3 hectares et c'est tout, j'ai envie de dire, parce que tout était à reconstruire, il n'y avait rien autour.
Exactement. Voilà.
Et vous avez commencé par quoi? Par une pelle pour planter des...
Non.
Des cépages ou par un burin pour construire des trucs ou...
Non, il y avait une très belle propriété qui date du milieu 18e siècle, qu'il fallait remettre en fonctionnement. Elle était en parfait état, mais il fallait redonner vie à ce lieu. Il y avait 3 hectares autour des bâtiments et progressivement, c'est agrandi avec des vignes qu'on a pu conserver, d'autres qu'on est en train de renouveler progressivement.
Alors racontez-le donc, Régnier, c'est un des crus du Beaujolais.
Oui.
Il y en a combien au total?
Le plus récent.
10 crus, oui. Le plus récent, 1988. On peut le faire. Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier, Morgon, pardon, Fleury, Chirouble, Saint-Amour, Juliena et Moulin à Vent.
Eh ben, il a gagné. Bravo.
Bravo. Voilà. alors, évidemment, vous êtes arrivé, il n'y avait pas de commercialisation. Donc, là aussi, il a fallu tout bâtir.
Oui, on est parti de zéro. Avec la liberté que peut donner la situation de ne pas avoir d'antécédent quand on reprend une propriété.
Alors, bon, les Capréoles, il faut quand même expliquer ce que c'est. Un certain sens de l'attachement.
Tout à fait, puisque le mot capréole est plus vraiment utilisé aujourd'hui, c'est la vrille de vigne, désigner la vrille de vigne en vieux français. On utilise un petit peu encore en botanique le terme capréolé pour toutes les plantes qui ont des vrilles. Oui. Donc un attachement, un support, mais aussi une notion de vrille qui se dirige vers le ciel, puisque c'est la même racine que capréolus qui a donné chevreuil ou cabriole.
Et vous partez jamais en vrille?
Oh, c'est arrivé.
C'est fait.
Bon, on doit vous poser la question.
Il fait parfois, quand il fait très beau, il fait des sauts de cabri dans la ville.
Très joli. Donc, 2 types de sols, mais le tout sur granit, forcément.
Oui, c'est une grande dominante granitique. Et on a quelques moraines glaciaires. Alors, elles sont assez rares dans la zone des crues du Beaujolais. Mais il y a quelques langues déposées par des anciens glaciers qui sont, à l'inverse des granites, les moraines sont très riches en argile.
Alors, les couleurs de vos vins, il n'y a qu'une seule couleur?
Non, il y a les 3 couleurs. Sur les moraines, plutôt en blanc, enfin même exclusivement en blanc, un petit peu de rosé aussi sur les moraines, et sur les granites, 100% rouge.
Hélène,
les vignes que vous avez reprises étaient là forcément depuis déjà un moment. Toutes vos vignes sont des vieilles vignes, 80 ans ?
Oui, alors on a 80 ans, 90 ans, plantées à 11 000 pieds hectares, et puis des vignes plus jeunes, 55, 60, qui est la moyenne d'âge en Beaujolais, et des vignes maintenant encore plus jeunes, alors 22, et puis depuis qu'on est arrivé, 7, 5, 4, 3, 2,
1, partez,
voilà. Voilà. Tous les jours, tous les ans, pardon.
Quand on a une densité de 11 000, c'est beaucoup, ça se travaille comment ? Des chenillettes ou...
Non, on arrive alors beaucoup, beaucoup à la main, oui. Parce qu'avec les tout petits tracteurs, on a un tracteur qui a 55 ans, donc à l'époque on faisait des bonnes choses, des tout petits tracteurs qui arrivent à passer, mais même moi qui suis un petit peu grand, quand on travaille à la main, quand on taille par exemple, on a tendance à s'asseoir sous la souche qui est derrière nous.
Et le potentiel de garde, on peut en parler, parce que souvent on boit les vins du Beaujolais relativement jeunes, parfois trop jeunes, vous en pensez quoi Cédric ?
Tout dépend du type de sol, des vignes. On peut avoir beaucoup de plaisir dans la toute jeunesse des Beaujolais, que ce soit des vins primeurs ou des Beaujolais qu'on met en bouteille au printemps. Et puis, en fonction des lieux où pousse le gamay, on peut aller jusqu'à 10, 15 ans de garde sans aucun problème.
Voilà. Hélène ?
D'autant plus que vos vins rencontrent un énorme succès et qu'effectivement, ils ont la structure pour pouvoir tenir un petit peu longtemps. Alors, on va en parler forcément. Moi, j'ai envie de parler de diaclases, parce qu'on était dans la géologie, là. Alors, il faut expliquer d'abord ce que sont les diaclases. Si je dis qu'il y a des diaclases chez vous, vous inquiétez pas, Alain Marty, c'est pas une bébête méchante.
C'est les pièces de
lit, non ? Non plus. Mais néanmoins, vous reposez sur des diaclases. Racontez-nous les diaclases.
Alors, la diaclase, c'est pas une dialyse non plus, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, c'est quelque chose qu'on
ne part pas en vrille.
Non, c'est le point de départ. Un granit, c'est une roche massive qui se forme dans l'écorce terrestre, et s'il ne se passe rien, elle reste massive, elle ne se transforme jamais en sol. Sauf que dans l'écorce terrestre, il y a des mouvements, des tensions qui provoquent des fractures. Et avant qu'on soit sur les fractures, on passe par l'état de diaclase. C'est une fissure dans les roches dures qui progressivement permet la transformation de la roche en sol et enfin d'y implanter.
Très long, hein.
Des millions, on est sur l'échelle des millions d'années. Ouais, c'est le point de départ.
Voilà. Diaclase. Et diaclase, c'est aussi donc le nom de l'une de vos cuvées phares.
Tout à fait, oui. Ouais.
Racontez-nous la structure de diaclase. Comment on pousse sur une faille pareille de millions d'années ?
Alors oui, là on est, c'est une cuvée qu'on élabore à partir de 3 parcelles qui se touchent. On a 5 hectares autour de la maison, donc c'est 3 parcelles qui sont dans ces 5 hectares sur un affleurement de granit. On a 45-50 cm de sol maximum, sans milieu de coteaux. Des vignes qui produisent des raisins toujours très concentrés, des petites grappes, des petites baies. Donc on a toujours beaucoup de densité dans ce vin-là, sans être un secteur qui souffre de la sécheresse. Donc on a des tanins très, très veloutés parce qu'on a des belles maturités.
David Cobold.
Une question sur la vinification, parce qu'il y a beaucoup de styles de vinification, beaucoup d'approches à la vinification. Il y a évidemment le célèbre l'infâme, je ne sais pas, macération carbonique, que j'appelle stupidement masturbation carbonique. Mais la grappe entière, égrappée, pas égrappée, semi-macération carbonique, est-ce que vous variez beaucoup selon la cuvée ou est-ce que vous avez une approche à peu près constante ?
Non, là-dessus, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On s'adapte au millésime.
Ouais.
Plus le millésime est beau, je dirais, plus j'ai tendance à mettre les raisins entiers tranquillement dans la cuve. Et parfois, sur des millésimes...
Des raisins ou des grappes ?
Des grappes,
des grappes entières.
Et parfois, quand on a des millésimes, notamment avec la grêle, là, on peut faire 100% égrappé. Donc, il n'y a pas vraiment de...
Il faut juger en fonction de la matière.
La gamme de prix, on va de combien à combien chez vous,
On va de 10 à 28 euros.
De 10 à 28 euros. Pour des grands vins, ça reste quand même très raisonnable.
Le mieux, c'est encore d'aller les goûter sur place, puisqu'il y a de l'œnotourisme, des gîtes, des chambres d'hôtes.
On peut dormir chez vous ?
On peut dormir, oui, on a un gîte et puis deux chambres d'hôtes aussi.
Il n'y a pas de table, il ne faut pas manger chez vous, déjeuner rapide ou quoi ?
Si
on
a le temps.
On est sympa, on dit avec vous.
Exactement, voilà.
Ah oui, et qu'est-ce qu'on peut manger ? Qu'est-ce qu'on a comme type de plat là ? Vous êtes dans le Beaujolais canaille ?
Oui, on peut être dans les charcuteries cuites dans le marc de raisin, le saucisson au gène classique. Et si on est sur des choses plus élaborées, et s'il y a un petit peu de production, notamment dans l'Aude où j'étais auparavant, des plats à base de truffes.
Ah, des truffes, voilà. Quoi. Il n'y a pas de sanglier, par exemple. Il y a beaucoup de sangliers.
Très peu. On est chevreuil,
chèvre. Oui.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on pense, où on est. On pense pas souvent à marier la truffe et certains beaujolais un peu structurés, ouais, et ça marche vrai, très bien.
Ouais. Et là, la température de service de vos vins, quelle que soit la couleur d'ailleurs, ça va de combien selon
mais
vous
sur les rouges, je dirais de 10 pour des rouges vraiment frais sur le fruit, surtout quand il fait un petit peu chaud, et jusqu'à 16 degrés. 16 degrés. On est à bonne température.
Et alors le rosé, vous faites du rosé, hein.
Oui, on fait un petit peu de rosé.
David Cubod, il n'aime pas le rosé, David. Ah. C'est pas ça que j'ai dit, Marty. Non,
ça m'est égal, le rosé. Non, j'en bois jamais.
C'est un rosé, on en est assez fiers. C'est une parcelle qui est sur des moraines glaciaires, beaucoup plus productive que sur les granites, et elle a un intérêt vraiment rosé.
À découvrir. Merci beaucoup, Cédric. Un site internet, une adresse, un truc pour vous retrouver?
www.capreol.com.
Merci Hélène, merci David également. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de très beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Brive-la-Gaillarde. Il y en a au moins une, au 6 rue Gambetta, sur 97.8. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque week-end, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. David Cobold, c'est le moment du Ville Quiz, David.
Allez hop, nouvelle question cette semaine pour gagner un coffret gourmand de Château d'Oyac dans le Bordelais. La question est, où se situent les domaines au pluriel du vigneron Sylvain Moret? A, Alsace et Languedoc. B, Bourgogne et Luberon. C, Champagne et Val-de-Loire. Et rendez-vous pour répondre toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Gagnons, tirage au sort. Parmi les très nombreuses bonnes réponses, parce que je pense que vous avez bien écouté l'émission.
Merci beaucoup David Cobold. On a le plaisir de retrouver maintenant Valérie Pajotin, qui est directrice de Indivin de France. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Alors avant de parler Bonjour. De cépages, un petit mot, vous nous rappelez un peu quelles sont les principales missions et fonctions de l'Indivin?
L'Indivin de France est une association nationale qui fait la promotion en France et dans le monde de la catégorie Vin de France. Donc comme vous le savez, la dénomination nationale, donc non attachée à un terroir ou un seul vignoble de la France, mais la possibilité de faire des vins très créatifs en assemblant des cépages de différentes régions françaises.
Alors aujourd'hui, justement, Valérie, vous nous parlez des différents cépages. Alors on peut peut-être commencer par le début. C'est quoi un cépage?
Alors un cépage, c'est une variété de vignes. Donc vous avez tous l'habitude des variétés de pommes. Mais de la même façon, sur la vigne, on a des variétés avec de raisins, avec des saveurs différentes, des goûts différents. Et ça nous semble, à l'Anivin de France, une catégorie, une façon de parler du vin. Très pédagogique, c'est pas David qui me contredira, puisque dans le monde entier, c'est le cépage, le type de raisin qui fait foi pour avoir une idée pour le consommateur de quel va être le goût du vin
David
qu'il achète.
Oui, elle a raison Valérie, donc c'est vrai que dans le monde entier, il y a une façon de voir les choses un petit peu différente. Alors, pas partout, hein, en Italie, en Espagne, on est quand même proche de notre façon de fonctionner, mais dans d'autres pays, c'est très différent.
Mais même en Italie, parce que beaucoup d'appellations italiennes jumellent le nom du cépage avec le nom de la région.
Oui.
Par exemple, Barbera d'Asti. Donc ça c'est vrai que c'est une entrée en matière de vin. Ça dit pas tout, parce qu'évidemment le lieu de production, le climat, le terroir, tout ça, et les méthodes d'élaboration jouent beaucoup sur le goût. Mais il y a des cépages qui sont beaucoup plus marquants que d'autres. Je prends un exemple, le Sauvignon Blanc a des arômes très caractéristiques, le Chardonnay n'en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des cépages qu'on appelle transparents ou plastiques, parce qu'ils reflètent beaucoup plus le lieu de production et le mode de vinification que d'autres. Le Gewürztraminer ou le Muscat sont très marquants, par exemple, immédiatement. Donc le cépage est une excellente méthode de rentrer en pédagogie du vin. C'est plus simple. C'est pas nécessairement complet, on ne peut pas tout expliquer par les cépages, mais ça aide énormément et c'est international, c'est le gros avantage.
Valérie?
Nous, on pense vraiment que la pédagogie pour les nouveaux entrants sur le vin, c'est véritablement une clé d'entrée, et que plus, avec l'âge, on sophistique sa connaissance,
on creuse.
Mais d'entrée de jeu, nous, il nous semble que c'est important de savoir si on préfère le Sauvignon Blanc ou si on préfère le Chardonnay.
On peut préférer les deux.
C'est alors, même là, on peut aimer les deux, mais on a toujours une préférence. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas les cépages, là aujourd'hui, dans les bars et les restaurants, il y a souvent cette clé d'entrée. Donc c'est quand même très important de connaître son propre goût. Donc pour nous, connaître les cépages, mais évidemment, David a écrit un livre sur les 70 cépages à connaître parmi les 210 cépages français. Donc, c'est vous dire qu'on peut toute une vie découvrir le goût
des
cépages.
On fait un petit clin d'œil, Valérie, à un cépage roi mondialement, d'ailleurs le chardonnay, par exemple.
Au hasard, je suis une chardonnay girl, donc quand vous l'avez traité de transparent, vous m'avez blessée, David.
Non, mais transparent, c'est noble, c'est-à-dire que ça reflète énormément de choses autres que le cépage.
Non, mais on est complètement d'accord. Mais c'est vrai que Sauvignon Blanc et Chardonnay sont deux cépages emblématiques et que, quand vous dites, on peut aimer les deux, mais c'est vrai qu'on peut quand même avoir une préférence pour les arômes d'amandes, de beurre, de pain grillé du Chardonnay. Et que quand on aime le Sauvignon, on est plus sur la vivacité, sur des arômes de buis, des choses
de
plus...
De pamplemousse.
On est sur des vins plus secs qu'avec la rondeur attendue d'un Chardonnay. Donc c'est dans ce...
Ne dites pas ça aux producteurs de Chablis. Hein. La rondeur, ils ne connaissent pas.
Non. Avant de rentrer dans ces adjectifs extrêmement complexes,
personnel.
Voilà. Ouais. Nous, ce qui nous semble vraiment important, c'est que au moins sur 10-15 cépages, les jeunes adultes qui rentrent dans notre univers, il y a certainement beaucoup d'auditeurs extrêmement capés qui connaissent les 210 cépages français, mais déjà connaître les cépages d'origine française qui font notre réputation dans le monde, comme le Pinot Noir, la Syrah, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, et je vais oublier
David.
Le cépage préféré de David.
Ouais, j'en ai pas. Non, j'ai une question piège pour vous, Valérie.
Oh, c'est une émission amicale.
Alors, à partir de quand est-ce qu'un cépage devient français? Je vais prendre un exemple, le Grenache, qui vient d'Espagne, mais c'est très planté en France. Donc, est-ce que vous le considérez comme un cépage français?
Pas nécessairement, en priorité. Je ne l'aurais pas cité, comme vous avez pu le voir.
C'est un cépage qui se plaît en France, David. Ça vous va, ça?
Il y en a beaucoup. Oui. On peut prendre l'uni blanc qui vient d'Italie aussi.
Oui, non, mais l'Europe a quand même
L'Europe,
et le sud
voilà.
De l'Europe a quand même des terroirs.
Hélène,
des cépages qui se ressemblent.
Ce marqueur, ce curseur là, cépage, c'est bien, hein, ça permet.
Je suis complètement d'accord avec Valérie. Je trouve que c'est effectivement essentiel. Même nous qui sommes présupposés et payés pour s'y connaître un peu, si j'arrive dans un pays où j'ai jamais mis les pieds, j'étais sur la planète Mars auparavant et je sais pas. Ce qu'il y a sur la carte des vins, effectivement, si je suis complètement perdue, je vais demander, et c'est quoi le cépage? Une fois qu'on me dit ça c'est blanc et ça c'est rouge, ok, et le cépage c'est quoi?
C'est un repère mondial.
Voilà, bien avant de demander, et ça a poussé sur des granites schistiques ou sur des marnes d'argilo-calcaire? Enfin, tu vois, bon, c'est...
Alors, ce qui est parti en vrille, votre
Hélène,
on démarre par...
je vais vous poser une colle.
Oui.
Si je vous dis Roccat Citelli, qu'est-ce que vous dites?
À vos souhaits.
Puis restez poli avec Hélène,
bon,
David.
Allez,
le cépage le plus planté blanc de la Géorgie.
De la Géorgie, quoi.
Très bien.
Valérie,
on va revenir en France avec Valérie.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat associé au chardonnay, par exemple? Parce qu'il y a quelques conseils pratiques, hein, vous pouvez donner.
Oui, alors j'avais fait un petit livre avec le thème de l'apéro dînatoire autour des cépages et où on mettait les recettes les plus adaptées. Donc c'est vrai que sur l'apéro autour du chardonnay, on avait mis des coquilles Saint-Jacques, on avait mis tout ce qui est crustacés. Mais avec un petit peu de crème par rapport au Sauvignon, on va plutôt être sur les crustacés et les poissons crus, par exemple. C'est un sujet tellement vaste que je pense qu'il faut aller sur le site internet pour faire des apéros pinot noir, apéros chardonnay.
Hein, on peut faire quelques bonnes pastas, par exemple,
ça
avec
va
le chardonnay.
Avec tout,
absolument.
Le poulet rôti, la pâte, et ça va.
Volaille.
Et avec un Sauvignon blanc, donc on est plutôt sur quel type de... Est-ce que les cuisines, par exemple, asiatiques pourraient fonctionner, selon vous?
Oui. Un cépage très aromatique qui vraiment met très très bien en valeur les cuisines asiatiques, évidemment.
À condition de faire attention avec les épices. Le seul bémol sur les cuisines, si vous faites la cuisine séchuanaise ou indienne la cuisine thaï est souvent très épicée. Il faut surtout limiter la quantité d'alcool et avoir éventuellement un peu de sucre pour étouffer le feu de l'épice.
Oui, pour compenser.
Parce que moi, j'ai fait une énorme bêtise une fois en Thaïlande. Je faisais des conférences sur la Bourgogne et puis on m'a invité au restaurant au midi. Et j'ai commandé avec la cuisine thaï que j'adore une Shiraz australienne qui devait titrer 15 degrés d'alcool. J'avais la bouche en feu pendant 4 heures.
4 heures. Elle devait être sympa, votre conférence.
Oui, j'avais
une conférence de feu. Rythme. Et alors, avec ce fameux Sauvignon, Valérie, nous, on adore les fromages de chèvre. Ça fonctionne ou pas?
C'est le cépage emblématique des fromages de chèvre, évidemment, comme les brousses, les chèvres aux herbes, les crottins de chavignol, les petits chèvres frais. Donc ça, c'est absolument parfait en termes de mariage avec, le Sauvignon Blanc.
Et donc les vins de France travaillent quasiment tous les cépages qu'on peut trouver en France, en tout cas tous les principaux, Valérie.
Exactement, donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire que pour les jeunes adultes, les entrants, non pas les grands experts comme vous trois, c'est de se dire...
Mais ils ont été jeunes un jour. Hein.
Et ignorants.
on a du mal à le croire. Et donc c'est de savoir si on est Sauvignon Blanc ou Chardonnay, est-ce qu'on est plutôt, quand on aime les vins floral et sec, est-ce qu'on est plutôt Chenin ou Viognier, est-ce qu'on est plutôt Pinot Noir ou Syrah. C'est vraiment des cépages très opposés, entre guillemets, en termes d'aromatique, et qui permettent véritablement, après, de s'orienter sur les vins plus complexes et sophistiqués que juste un vin de cépage, pour vraiment, mais à la base, savoir si on est plutôt sur un goût épicé comme la Syrah.
Vous avez mille fois raison, mais je milite contre l'abus du terme. Quand on est dépréciatif des vins de cépage. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Tous les vins sont issus de cépage.
Absolument. En tout cas, on va en savoir avec vous régulièrement. Valérie, vous êtes parmi nous pour certaines chroniques. On parlera d'ailleurs prochainement des vins oranges. Ça va être un vaste sujet, ça aussi. Merci beaucoup, Valérie. Donc, la directrice de Adi Vins de France, Hélène Pio, Cédric Lecareux, David Cobol, ainsi que les millions d'amateurs de vins qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.tv. Et on se retrouve samedi prochain, 13h précise, pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.